Chérie Bibi et Cécilie, chapitre 2. Cécilie. L'auto s'arrêta au haut de la côte de Dieppe, avant d'arriver au Paulé. « Dois-je attendre, monsieur le marquis ?» demanda le chauffeur. « Non, Carole, tu vas retourner au Tréport, et là tu attendras mes ordres. » Le marquis et son secrétaire descendirent de l'auto. « Eh bien, mon brave Villers, nous voici au bout de nos tribulations. » « Monsieur le marquis doit être bien ému, » fit Hilaire en regardant son maître, un homme superbe, de grande et forte corpulence, tandis que lui, chétif, flottait dans un complet veston de voyage qui paraissait trop grand pour son étroite poitrine, pour ses membres grêles et fragiles. « Oui, Hilaire, oui, je suis ému, tu peux le croire. » Si ému que je ne suis point fâché d'arriver à la nuit tombante, dans un pays où chaque pierre, tu entends, chaque pavé de la route évoque pour moi un souvenir. Ah, que d'années passées depuis les événements fatals qui m'en ont arraché et que tu connais. C'est là que j'ai vécu une enfance et une adolescence bien heureuses. Oh, terre bénie, sol de ma patrie, enfin je reviens à toi. Après tant d'espérances qui se sont brisées et de combats et de fatigues. Se peut-il que le plus cher de mes vœux soit exaucé? Ah, mon cher Hilaire, je ne me flattais plus de mourir un jour, comme un honnête homme, dans ce pays de Caux qui m'a vu naître, d'avoir un jour mon tombeau dans ces lieux si chers. Salut donc, ô mon pays. Je revois tes humbles demeures, les toits qui fument dans la paix du soir, les petits-enfants qui se poursuivent avec des cris joyeux, et les bonnets blancs de mes polletaises assises au pas de leurs portes pour mieux voir passer l'étranger. Voici derrière les fenêtres les feux qui s'allument, comme mon cœur bat à l'aspect de ce porche, où si souvent je montais dans la diligence retentissante qui me conduisait vers Biville ou Criel, et dans toute la vaste campagne. Mon Dieu, Hilaire, arrêtons-nous ici. Tu vois cette route, dont la montée bifurque vers la falaise, c'est le chemin du puits où j'ai connu mes premières joies et mes plus grandes douleurs. C'est là qu'avec ma petite sœur nous filions comme le vent à travers les prés verts pour arriver bientôt au grand buisson d'aubépine, tramé de chèvrefeuilles et d'églantiers, qui abritait la demeure de Cécilie. Cécilie, Cécilie, laisse-moi pleurer, Hilaire. D'où vient qu'une invincible tristesse, en ce jour qui devrait être le plus beau de ma vie, m'envahit, m'emplit d'un mystérieux effroi, comme si je courais au-devant d'une catastrophe fatale, d'un malheur que rien ne pourra détourner de ma tête. « Avançons un peu, monsieur le marquis, » fit Hilaire. « On commence à nous regarder. »« Tu as raison, mon ami, il ne faut point nous faire remarquer. Je ne tiens pas à ce que le marquis du Toucher soit reconnu, ni à ce que l'on salue son heureux retour avant que je n'aie goûté pleinement la joie solitaire de revoir tant de choses et de gens qui me tiennent au cœur par des fibres si sensibles. » Ah, c'est elle! La voici, la devanture! Rien n'a changé, Hilaire! Rien n'a changé! Voici la devanture de fer de la première boucherie où je fis mon apprentissage!
Je vous avouerai, monsieur le marquis, dit Hilaire, que je n'aime point beaucoup ces sortes de grilles qui me rappellent, à moi, les plus fâcheuses heures de votre chère existence. Et il essaya de l'entraîner en le prenant respectueusement par le bras. Mais le marquis se dégagea et dit « Le beau veau! Regarde, Hilaire, ce veau, il est superbe! Et cette fraissure, elle est magnifique! Ils ont toujours eu ici de la belle fraissure, parce que jamais ils n'achetaient de viande trèfle, c'est-à-dire malade. Je m'en veux du reste, pour preuve que ces poumons qui sont tout à fait coches, comme on dit dans la partie, c'est-à-dire excellents. C'est comme ce bœuf attaché encore au tinet. Il fait plaisir à voir, je t'assure.
Monsieur le marquis, je vous en prie, on s'attroupe déjà autour de nous.
Oui, oui, l'air, je viens. Tu as raison, mon garçon. Mais excuse-moi, tu sais, c'est ici que j'ai appris à donner mon premier coup de couteau.
Ils traversèrent le pont, et encore le marquis s'arrêta pour embrasser d'un coup d'œil ce port, sur les quais duquel il avait joué avec l'entrain de l'innocence. Il dit à son secrétaire, en lui montrant la sombre silhouette d'un steamer, « Ça, c'est le bateau de New Haven. Nous assisterons à son départ demain matin. Pense ce soir à me faire regarder l'heure de la marée. Et maintenant, je vais te montrer la statue de Duquesne. » Ils furent arrêtés par un grand encombrement de voitures, comme il s'en produit au moment des courses en pleine saison, ce qui était le cas. Et il dit « Je vois avec plaisir qu'il y a toujours de la circulation. » Quand ils arrivèrent sur la place où s'érige la statue du grand marin, le marquis campa Hilaire à un endroit propice, et bien que l'ombre du soir fût déjà tombée, le secrétaire put admirer la noble attitude du héros Diepois dans ses larges bottes. « Quand nous étions petits, ma sœur et moi, dit le marquis, nous ne passions jamais devant cette statue sans que je fasse remarquer « Tu vois, Jacqueline, ce n'est pas du bronze, c'est du ken. » Le marquis rappelait ses enfantillages avec attendrissement, et il lui semblait qu'il était redevenu petit enfant. « Où allons-nous dîner ?» demanda Hilaire qui avait faim. « Écoute, Hilaire, si tu le veux bien, nous allons lâcher ce soir les palaces, et je vais te conduire dans une modeste gargote du port où je me régalais quelquefois avec les camarades, aux jours de congé quand j'étais en apprentissage. Ça nous coûtera 1,50 franc par tête, 20 compris, moins les suppléments, bien entendu, et nous aurons une excellente friture. »
« Je remarque que monsieur le marquis, fit Hilaire, qui ne tenait point du tout à la gargote, devient fort économe depuis quelque temps.
« Je n'ai jamais aimé le gaspillage, répondit le marquis, et ma foi, sans être avare, un sou est un sou.
Monsieur le marquis comptait moins quand il était pauvre.
La belle affaire de ne point compter quand on n'a point d'argent.
C'est juste. » se rendit Hilaire.
« Mais de quoi te plains-tu? Nous privons-nous de quelque chose et ne vivons-nous point selon notre rang? Ce que je n'aime point, vois-tu, Hilaire, c'est le coulage. Il ne profite à personne. Enfin, n'oublions pas que nous avons à rattraper 6 millions. »
« Chut !» interrompit vivement Hilaire en pinçant respectivement le bras de son maître.
« Je ne dis rien que tout le monde ne puisse entendre. » continua le marquis en se frottant le bras. « Je le répète, 6 millions, c'est de l'argent. Que d'honnêtes gens on pourrait faire avec 6 millions ?»
Et il poussa sous les arcades où ils étaient revenus, en face de la poissonnerie, la porte vitrée d'un bistrot. Il y avait là une douzaine de matelots et de petits employés qui dînaient assez bruyamment. Le patron de l'établissement, Monsieur Oscar, on l'appelait. Flatté de voir entrer chez lui des clients aussi reluisants, se précipita. Mais le marquis connaissait les êtres, et il n'eut point besoin de ses services pour pénétrer dans une sorte de cabinet particulier, séparé de la salle commune par des cloisons munies de vitres, sur lesquelles glissaient de petits rideaux sales.
« Ça sent le graillon !» fit Hilaire dégoûté.
« Ça sent la friture diepoise !» fit le marquis. « Monsieur Oscar, vous nous donnerez 4 fritures diepoises, des crabes et des crevettes et 4 portions de tête de veau à l'huile et 2 carafes de cidre pour commencer. »
« Ces messieurs attendent des amis ?» demanda monsieur Oscar obséquieux.
« Nullement, fit le marquis, mais je sais quelles sont les portions de la maison. » Et je prends mes précautions, monsieur Oscar.
Vous me connaissez donc, monsieur, sauf votre respect?
Nullement, mais j'ai vu votre nom sur votre porte. De mon temps, le patron s'appelait Lavallée. Il est mort, dit Oscar, et je lui ai succédé.
Et les affaires vont toujours bien ?
Que non, point, monsieur. Et tel que vous me voyez, je cherche à vendre. Les palaces me font le plus grand tort. Les clients sont difficiles, et il faut maintenant faire venir le poisson de Paris.
Et pourquoi donc, monsieur Oscar ?
Mais parce que les palaces achètent tout le poisson frais de Dieppe, mon cher monsieur.
Vous voyez bien, fit Hilaire mélancolique, que nous aurions mieux fait d'aller dans un palace.
Monsieur, vous n'aurez pas à vous plaindre, déclara Oscar. Je cours à la cuisine.
Le marquis soupira. S'il n'y a plus moyen de manger de poisson dans les ports de mer.
Mais il ajouta tout de suite. Vois-tu, Hilaire, ça m'est bien égal. C'est le décor que je suis venu chercher.
Il est propre, fit Hilaire.
Mais il mit aussitôt un frein à sa mauvaise humeur, car une délicieuse petite boniche venait de faire son entrée. Jeune et coquette, le bonnet bien blanc sur l'oreille, l'œil éveillé, le sourire futé, adroite et vive, elle mit le couvert avec tant de grâce qu'Hilaire en tomba en extase.
« Comment vous appelez-vous, mademoiselle ? »
demanda-t-il en rougissant. « Virginie, monsieur, pour vous servir. » Hilaire immédiatement grava ce nom dans son cœur. Ainsi qu'il s'y est au commencement de l'amour, Hilaire resta silencieux pendant tout ce fâcheux repas et ne toucha guère à ces horribles rogatons, comme il disait. Le marquis, lui, parlait pour deux, rappelant 20 anecdotes de sa jeunesse et cherchant beaucoup, apparemment, à s'étourdir. Hilaire, qui le connaissait bien, ne s'y méprenait pas, persuadé que tous ces bavardages cachaient avec soin la seule pensée dont le marquis était alors préoccupé et qu'il n'exprimait point. Sur ces entrefaites, un gamin pénétra dans l'établissement en criant le titre d'un journal du soir dont les matelots de la salle voisine s'emparèrent. « Mes enfants !» fit entendre presque aussitôt un lecteur. « Paraît qu'on en a fini avec le fameux Baïa !» À ces mots, le marquis et Hilaire se prirent la main et écoutèrent avec une curieuse anxiété. L'homme continuait.
« Oui, tenez, c'est dans le journal. On a fini par le rattraper. Depuis un an qu'on lui courait dessus. Et il a été coulé. »«
Lis donc ! Lis donc !» crièrent les autres. Alors l'autre lut tout haut. « Dépêche du Times. Nous recevons de notre correspondant de Singapour une courte dépêche nous apprenant la fin du fameux Bayard et de son équipage de forbans. C'est dans la mer des Moluques, près des îles Sula, que le croiseur français La Gloire, qui était à sa recherche depuis un an et auquel il avait réussi jusqu'alors à échapper à travers les innombrables archipels de la Malaisie, a pu le rejoindre. Un combat rapide s'est engagé et le Bayard, canonné par La Gloire, a sauté. Les trois quarts de l'équipage ont été noyés. Le reste, qui s'était réfugié dans des chaloupes et qui tentait de fuir, a préféré se laisser fusiller que de se rendre. La Gloire a recueilli plus de 100 cadavres, parmi lesquels on a pu identifier le chef des bandits, le Canaque, et sa terrible épouse, la Comtesse. On sait que le Canaque avait remplacé défunt chéri Bibi à la tête de ses abominables corsaires. Ainsi se termine cette effroyable aventure qui occupe le monde entier depuis de longs mois et qui avait terrorisé toutes les mers de Chine. Le lecteur avait terminé. Dans le cabinet particulier, les deux convives, qui étaient plus pâles que la nappe, certainement, poussaient un profond soupir en disant « Amen !» Dans la salle commune, on se livrait à des commentaires touchant la veine qu'avait eue le marquis du Touchet d'échapper à de pareils brigands. « Ça lui a tout de même coûté 5 millions !» fit un des matelots, car on était maintenant tout à fait au courant des événements dont le commandant Barachon et le marquis et bien d'autres avaient failli être victimes. et le marquis lui-même, à son passage à Paris, s'était laissé très complètement interviewer par les reporters des plus grands journaux. « On dit que le marquis va bientôt revenir à Dieppe, » fit un soupeur. « C'est la belle diépoise qui va être contente. Elle va recommencer, pour sûr, à écraser le pauvre monde, tandis que la marquise, qui est si bonne, va recommencer à pleurer toutes les larmes de son corps. » Tout de même, il y a des choses qui n'est pas juste. À ce qu'il paraît, c'est elle qui ouvre ce soir le bal du denier du pauvre marin, dit un autre, dans la grande salle du casino. Oui, avec le sous-préfet, la chère dame. C'est la première fois qu'on la revoit dans une fête de charité, depuis qu'elle a appris la mort de son frère, là-bas, en Océanie. Son frère, encore un joli coco. Il est mort de faire la noce, paraît-il, et de fumer de l'opium. Elle ne doit pas beaucoup le regretter. Si seulement son mari avait pu crever comme son frère, elle serait bien débarrassée, la pauvre. Mais avec l'idée que son marquis va lui revenir un de ces quatre matins, elle ne doit pas avoir le cœur à la danse. Sans compter qu'elle était bien tranquille sans lui. Ah, si j'avais été à la place de la marquise, moi, c'est pas moi qui aurais donné les 5 millions pour que les brigands me rendent un oiseau pareil. Le marquis riche de ses spéculations de Rouen à Saint-Julien. Son notaire n'avait besoin de la permission de personne pour le tirer de là, bien sûr. Enfin, je la plains. Vous n'avez pas vu la belle diépoise qui revenait des courses aujourd'hui? Elle en avait une toilette, tape à l'œil. C'est tout de même une belle femme, cette baronne Proskov. Seulement, le marquis sait ce qu'elle lui a coûté. Comme les dîneurs en étaient là de leur conversation, ils durent déranger leurs chaises pour laisser passer les 2 clients du cabinet particulier. « Tiens, » fit le matelot quand les 2 hommes furent sous les arcades, « en voilà un qui ressemble au marquis comme 2 gouttes d'eau. »«
Pas possible !»
s'exclamèrent les autres.
« Crois-tu que le marquis viendrait dîner ici? T'es pas malade !»
Dehors, le marquis, qui était de plus en plus agité, regarda sa montre. « Il n'est que 8h30, » fit-il.
« Ça ne commencera pas avant 10h, » dit Hilaire.
« Le programme annonce l'ouverture du bal pour 9h. Ah, quand je pense que dans une demi-heure... J'ai peur, Hilaire, je tremble comme un enfant. Je peux bien te le dire maintenant. L'idée de revoir Cécilie m'épouvante. » Oui, d'abord, ça m'a été une immense joie. Et c'est ce qui m'a fait tout souffrir, tout supporter. C'est ce qui m'a fait endurer le supplice. L'idée que je serais son mari, son maître, qu'elle m'appartiendrait, que cette femme que j'adorais et qui était si loin de moi, allait être à moi, que je pourrais vivre à ses côtés, la voir tous les jours, la respirer, marcher dans son parfum. Et Hilaire, le soir, lui tendre les bras. N'est-ce pas le sublime désenchantement, le paradis? Eh bien, Hilaire, de ce paradis, voilà plus d'un an que je retarde le moment où j'en pousserai la porte.
Vous avez bien fait, monsieur le marquis, répondit le secrétaire. N'eût-ce été que pour attendre ce jour où nous apprenons la disparition de ces 2 êtres qui étaient les seuls au monde à avoir notre secret. Maintenant, nous voilà tranquilles. Enfin, cette année vous aura profité, et à moi aussi. Vous avez voyagé, vous avez vu le monde et du monde. Vous avez appris bien des choses. Vous avez traversé la société. Vous savez comment on s'y tient, comment on y réussit. Vous avez fréquenté votre notaire. Vous avez compulsé vos papiers. Vous connaissez votre fortune. Elle ne vous étonne plus. Vous savez parler aux femmes, vous êtes un vrai gentilhomme. Vos manières se sont affinées et votre langage s'est épuré. Je vous écoutais tout à l'heure saluer votre pays en des termes choisis. Comme on lit dans les livres, aucun mot vulgaire ne vous échappait plus. Et bien que l'occasion s'en présentât, vous n'avez pas une seule fois laissé passer ce « fatalitas » qui, autrefois, émaillait si souvent vos discours. Moi-même, je vous ai suivi sur ce beau chemin.
J'ai profité des leçons que nous avons prises en commun et je ne me reconnais plus.
Tu as toujours ta bonne figure palote et tes bons yeux de chien fidèle, mon vieux la ficelle.
Ne prononcez plus ce nom-là, monsieur le marquis. Il est mort avec toutes nos misères.
Tu as tout à fait l'étoffe d'un parvenu, mon pauvre la ficelle. Moi, ça ne me déplaît point quand tu t'oublies à dire chéri bibi comme autrefois, et que nous sommes seuls, bien entendu.
Ne me mécanisez point, monsieur le marquis, pria la ficelle blessée.
Si j'ai l'air d'un parvenu, je vous trouve bien souvent maintenant celui d'un Joseph Prud'homme.
Ah, bien sûr, on n'a point seulement changé que votre visage.
Qu'importe, la ficelle, si mon cœur est toujours le même.
Ou de ce côté-là, vous n'avez point changé, il faut le dire. Vous aimez toujours Madame Cécilie, vous ne songez qu'à elle.
Tenez, nous voici déjà au casino qui est tout illuminé.
Que comptez-vous faire ?
Viens, la ficelle, mon bon la ficelle, viens faire un tour de jetée. Nous avons le temps.
Comme vous tremblez, monsieur le marquis, vous me faites pitié. Appuyez-vous sur mon bras.
Vois-tu, Hilaire, je suis bien malheureux.
Comprends-moi, cette femme, c'est toute ma vie, et j'ai sur elle tous les droits. Voilà ce qui est terrible. Si j'allais la faire souffrir, elle ne m'aime pas. Elle est heureuse de mon absence. Si j'étais brave et si j'avais le cœur que tu dis, je m'enfuirais ce soir sans l'avoir revue. Conçois-tu les transes par lesquelles je passe, et pourquoi, au Tréport, nous sommes restés 3 jours à ne rien faire, alors que tout m'appelait ici? Je ne sais où diriger mes pas. J'hésite, je suis comme un pauvre homme dans les ténèbres. Un instant, j'avais eu l'idée de rester là-bas, dans les Amériques, de m'y installer. Mais je n'ai pas pu, non. Non. Sa pensée m'attire, comme le fer attire l'aimant.
Comme l'aimant attire le fer,
crut devoir corriger le bon Hilaire.
Si tu veux. Alors je me suis embarqué pour l'Europe, et puis ça a été Paris, et puis toujours plus vers elle. Nous nous sommes rapprochés, et maintenant il faut que je la voie. Je vais d'abord essayer de la voir de loin. Ce bal m'a décidé. Quand j'ai su qu'elle serait à ce bal, je me suis dit « voilà une occasion ». Je pénétrerai dans le casino, après avoir payé mon entrée, bien entendu. Je resterai en dehors de la salle des fêtes. Mais à travers les grandes fenêtres, on voit les danses, on assiste au spectacle. Je reverrai Cécilie. Je brûle de savoir si elle a gardé cette beauté d'autrefois que j'ai emportée dans mon cœur. Asseyons-nous un peu sur ce banc, mon cher Hilaire, mon bon et excellent la ficelle. Mon cher, mon seul ami, je suis heureux, vois-tu, que lors de ton voyage au million, tu n'aies pas vu Cécilie.
Non, vous savez bien, monsieur le marquis, que c'est par l'entremise du notaire que tout a été réglé. Et je suis heureux, moi, que ce notaire soit mort. Comme ça, il ne me reconnaîtra plus.
Maître Régime, qui l'a remplacé, est un bien digne homme, la ficelle.
Mais je te disais donc que j'étais heureux que tu n'aies point vu Cécilie, et je vais te dire pourquoi. Tous les hommes n'ont point les mêmes goûts. Tu n'aurais peut-être pas trouvé Cécilie aussi belle que je l'eusse désirée, et j'en aurais eu une grosse peine. Et je t'en aurais voulu, vois-tu, la ficelle. Je ne puis comprendre qu'on n'admire pas Cécilie.
Me voilà prévenu, se dit le dévoué secrétaire.
Ils étaient sur la jetée. La brise du large leur apportait, en même temps que les senteurs marines, les bruits des premiers flonflons.
« Allons-y !» s'écria chéri Bibi. « Le sort en est jeté !»
Et se levant, il entraîna rapidement la ficelle vers le casino. Il y avait déjà foule aux grandes grilles de l'entrée, et des voitures, des autos ne cessaient d'amener un public des plus élégants. Nos deux hommes pénétrèrent dans la cour réservée et rapidement se dirigèrent vers l'une des hautes fenêtres de la salle de gala, près de laquelle ils s'installèrent extérieurement, dans un coin d'ombre qui les protégeait contre les regards indiscrets. On ne les voyait point, et ils voyaient.
Chéri Bibi s'était assis pour calmer ses agitations, les yeux fixés sur le salon où les groupes commençaient déjà à évoluer. Sur une estrade, à côté de l'orchestre, on avait disposé les riches lots de la tombola qui devaient être tirés à la fin de la fête. De gaies jeunes filles, de charmantes jeunes femmes montaient et descendaient, regardant les lots, se les passant de main en main avec des réflexions et des sourires. Des jeunes gens, une fleur à la boutonnière, allaient de chaise en chaise saluer ou retenir leurs danseuses. Quelques-uns faisaient le beau, tendaient le jarret, prenaient des airs ridicules. Un homme, qui paraissait une quarantaine d'années, fit son entrée. Remarquablement élégant, portant haut une tête futile et jolie, et tout à fait déplaisante pour ceux qui n'aiment point les bellâtres. Chéri Bibi, qui justement ne les aimait pas, se leva en étouffant un vilain juron. Il reconnaissait cet homme. « Monsieur de Pontmarie, siffla-t-il, en voilà un qui m'a toujours déplu. » Monsieur de Pontmarie donnait le bras à une vieille dame qui avait fort grand air sous ses cheveux blancs et son fichu de dentelle. « Tiens, la marquise Douairière du Touchet !» dit Chéri Bibi à la ficelle. « Vous la connaissez, monsieur le marquis ?» demanda la ficelle. « Je te crois, c'est ma mère !» Dans tout cela, il ne voyait pas Cécilie. Son regard plongeait dans les groupes, cherchait autour des jeunes femmes, car pour lui, Cécilie était toujours une jeune femme, bien qu'elle dût avoir maintenant dans les 35 ans. « La belle âge !» avait dit la ficelle consolateur. Sans doute n'était-elle pas encore arrivée. Elle n'était pas en retard, puisque le sous-préfet n'était pas encore là. Une seconde, il pensa qu'elle était là, peut-être, qu'elle lui crevait les yeux et qu'il ne la reconnaissait pas. Une idée pareille lui faisait couler des gouttes de sueur, en abondance, sur le front qu'il épongeait, fébrile, fiévreux, ne tenant plus en place le pauvre garçon. Mais ce n'était pas possible. Son cœur battait à grands coups sourds dans sa poitrine qui résonnait comme un tambour. Et il savait bien que même si ses yeux n'avaient pas reconnu Cécilie, son cœur, en s'arrêtant, lui aurait dit « C'est celle-là !» Car son cœur s'arrêterait, ça c'était sûr. Et il était bien capable d'en mourir, ma foi. Il s'appuya sur la ficelle qui le sentait grelotter. À un moment, il y eut une sorte de remue-ménage dans le salon. Les groupes se retournèrent, des personnes qui étaient assises se levèrent. Tous les visages paraissaient curieux, et les jeunes hommes, empressés, couraient à la porte, où il semblait que se produisit une entrée sensationnelle. « C'est Cécilie, ou le sous-préfet !» se dit à moitié mourant Chéri Bibi, car il ne pouvait imaginer un tel dérangement que pour sa bien-aimée, ou pour le représentant galonné du gouvernement. Mais ce n'était ni le sous-préfet, ni Cécilie. C'était, par exemple, un couple rutilant. La dame était admirablement empanachée. La ficelle, qui s'était mis un peu à la littérature depuis qu'il était le secrétaire de Chéri Bibi, la jugea d'une altière beauté. Grande et d'une harmonie de lignes idéale, exhalant de toute sa personne, de sa démarche, de sa façon de regarder et de sourire, un charme des plus sensuels. Elle arrivait là, en conquérante, en véritable reine de la fête. Elle portait avec audace une robe de princesse en bengaline jaune paille, épousant de très près les formes et barrée en sautoir par une vaste écharpe en crêpe de Chine cramoisie. Chéri Bibi, furieux, allait demander tout haut « Quelle est cette péronnelle ?» quand il aperçut son cavalier. Son cavalier, c'était le baron Proskoff, qui, lui, était revenu en France aussitôt qu'il l'avait pu, auprès de la baronne, son épouse, laquelle avait par miracle échappé au naufrage de la belle Diépoise, dans une chaloupe qui avait été recueillie par le navire abordeur. Si Chéri Bibi avait douté plus longtemps que cette superbe personne fût la baronne elle-même, il aurait été vite renseigné par les propos qui se tenaient autour de lui, à toutes les fenêtres,
Les spectateurs du dehors murmuraient « La belle Diépoise !»
Et peut-être n'eût-il point résisté à l'envie d'exprimer assez haut sa façon de penser à l'égard de cette effrontée. Mais il n'en eut pas le temps. Cécilie venait d'entrer. Comme Chéri Bibi était monté sur une chaise, il s'effondra. La ficelle le reçut dans ses bras, le redressa, lui glissa quelques paroles d'encouragement, auxquelles il répondit avec de vagues coups de tête, qu'il promettait d'être raisonnable, et il retourna à sa vitre, contre laquelle il appuya une figure de mort. Le sous-préfet était allé au-devant de la présidente du denier du pauvre marin, et maintenant il la conduisait à sa place, lui ayant offert son bras et lui parlant fort galamment. Chéri Bibi, immédiatement, se mit à détester ce sous-préfet. Ah, elle était d'une grâce merveilleuse, la petite marquise du Touchet, et combien paraissait touchante sa naturelle mélancolie. Autant sa rivale répandait d'éclat sur son passage, autant celle-ci plaisait par son charme modeste et son élégance de bon ton. Car élégante, elle l'était autant que l'autre, sinon plus, si tant est que l'on doive appeler élégance cet agrément qui est inné chez certaines femmes et qui résulte de la parfaite distinction des manières, de la facilité dans les mouvements, d'un goût sans défaillance dans la parure et de la simplicité dans la richesse. La marquise du Touchet était habillée d'un fourreau de soie blanche recouvert de chantilly noire. « Ciel !» commença Chéri Bibi dans le secret de son fort intérieur, où son amour pour Cécilie s'exprimait toujours avec un lyrisme qui dépassait la vulgaire humanité. « Ciel, la voilà, la douce lumière de ma vie, celle qui a quatre parts dans mon cœur. Oh, cher objet de mes alarmes, espoir tant pleuré, qu'elle est belle. Ses malheurs n'ont fait que la rendre plus belle à mes yeux. Femme, elle dépasse les promesses de la jeune fille. Regardez-la marcher, et dites-moi si les fées qui glissent dans les prés fleuris ont des pas plus légers. Regardez-la sourire, et dites-moi si la douleur qui sourit, sœur de la pitié qui pleure, n'est point la plus belle. Oh, jeunes insensés, qui tourbillonnez comme un essaim volage autour de cette reine bourdonnante qu'est sa rivale, comment pouvez-vous l'avoir vue passer sans avoir été conquis pour toujours ? Là-dessus, il soupira. Et voilà qu'après s'être étonné du peu d'empressement que les amoureux de la baronne mettaient à saluer son idole, une fureur à la Chéri Bibi l'entreprit des pieds à la tête en voyant Cécilie danser avec le sous-préfet. Monsieur le sous-préfet avait une façon de sourire à Cécilie qui déplaisait souverainement à Chéri Bibi. Celui-ci trouvait également que ce haut fonctionnaire en prenait trop à son aise avec la taille de la marquise. Il la serrait trop, ce n'était point convenable. Et il avait un petit air fat en la faisant tourner qui méritait des gifles. D'abord, c'était bien simple. Chéri Bibi ne comprenait point comment on osait toucher à son idole. Et il maudissait les usages du monde qui, sous prétexte de charité, ordonnait de pareils jeux dont l'indécence le révoltait. Il finit par ne plus regarder le sous-préfet, parce que ça lui faisait trop mal, et il ne s'occupa plus que de la danseuse. Celle-ci glissait sans effort, le regard lointain, l'âme ailleurs. Chéri Bibi la vit passer tout près de lui, et il en reçut une commotion, qui le fit s'appuyer pantelant à la muraille. La fenêtre avait été entr'ouverte. Il lui parut qu'au passage, il avait respiré l'haleine de sa bien-aimée. Cette bouche aux lèvres vermeilles, ses yeux adorables, cette taille qui pliait, cette robe qui se soulevait, retenue par la main et laissant voir des chevilles divines, les petits pieds gantés de soie fine dans les petits souliers de satin. Ah ! C'était tout cela, sa Cécilie. Et tout cela était à lui. À lui ! Il n'avait qu'à vouloir. Cette pensée, comme il l'avait confiée tout à l'heure à la ficelle, cette pensée, en vérité, avait de quoi le faire devenir fou. Alors demain, après-demain, enfin, quand il oserait, ce soir même, s'il en avait le courage, il n'avait qu'à se présenter et dire « Me voilà !» Le maire, le curé, le bon Dieu, les gendarmes au besoin, tout le monde était avec lui, sur la terre et dans les cieux, pour lui apporter, pour lui donner Cécilie, pour lui dire « Prends-la, elle t'appartient !» Il serra de ses mains crispées son front brûlant. Ah oui, il oserait, il oserait. D'abord, maintenant qu'il l'avait vue, le reste n'était plus possible. Le reste, c'est-à-dire la fuite, l'abnégation, le départ pour toujours, l'abandon de tant de beauté et de jeunesse. Il ne pouvait plus se passer de cette femme. Quoi qu'il arrivât, il la voulait. La danse était terminée. Le sous-préfet avait reconduit Cécilie à sa place, auprès de la marquise Douairière. Chérie Bibi se calma un peu. Désormais, il était sûr de lui, de ce qu'il ferait. Il n'y avait plus à y revenir. Il serait le marquis du Touchet jusqu'au bout. Ah, bien, si on avait dit ça au petit garçon du Paulet, à l'enfant qui osait à peine lever les yeux sur la demoiselle des Bourreliers. Maintenant, chérie Bibi ne regrettait plus rien, absolument rien, des extraordinaires événements de sa criminelle vie, ni les années de prison, de bagne, de misère, ni son innocence méconnue par des juges aveugles, ni ses révoltes épouvantables, ni les heures d'atroce haine contre un implacable destin. Et pour la première fois, il remercia la fatalitas qui, par les chemins de trahison et de sang, l'avait conduit dans les bras de Cécilie. Les bras de Cécilie. Il les voyait nus pour la première fois. Ah, les beaux bras, les bras de sa femme, sa femme. L'orchestre préludait aux premières mesures de la prochaine valse. Chérie Bibi vit tout à coup Monsieur de Pontmarie qui, le monocle à l'œil, s'inclinait avec un sourire idiot, pensa Chérie Bibi, devant Cécilie. Celle-ci sourit au danseur, se leva et parut accepter son bras avec plaisir. Alors ils commencèrent de tourner. Ce qu'avait éprouvé Chérie Bibi en regardant la danse du sous-préfet et de Cécilie n'était rien, hélas, en comparaison de la tempête qui, dans l'espace d'un instant, lui bouleversa l'âme. La ficelle, dont il pétrissait les bras, se retint pour ne pas crier et crut prudent, après s'être dégagé, d'assister d'un peu plus loin aux manifestations de l'amour et de la haine de Chérie Bibi. Ce monsieur de Pontmarie était un polisson. Il dansait les yeux sur Cécilie, et certes il ne lui souriait pas en dansant, comme le sous-préfet, mais toute sa haïssable physionomie de belâtre, amateur de femmes, reflétait l'ardeur de ses honteux sentiments intimes. Par instants, ses lèvres murmuraient des mots que Chérie Bibi bien certainement n'entendait pas, mais dont il devinait le sens. C'était, de toute évidence, des paroles de flamme. Alors que Cécilie rougissait et détournait la tête. Ah, ce que Chérie Bibi souffrait! Le monstre! Pensait âprement Chérie Bibi, qui, dès que le couple se rapprochait, avait des envies folles de sauter à la gorge du danseur. Le misérable. Il abuse de cette soirée à laquelle la marquise a été obligée d'assister. Il profite de ce que, publiquement, au milieu de ce bal, pendant cette danse qu'elle lui a aimablement accordée, Cécilie ne peut pas le traiter comme il le mérite, pour lui dire des choses qu'il aurait fait jeter à la porte par les larbins, s'il avait eu l'audace de les prononcer chez elle. Et les yeux de ce Pontmarie brillaient. Sa main pétrissait la petite main de Cécilie, qui visiblement se défendait. Ah, ce que Chérie Bibi souffrait! C'était à hurler de douleur et de rage impuissante. Et elle continuait de danser.
et elle continuait de l'entendre. Le malheureux chéri Bibi se rappela les propos abominables des filles à bord du Bayard, quand elles accusaient sa Cécilie de s'en laisser compter par ce bon mari.
« Si, vraiment, allons donc, une pareille horrible pensée. Il était bien maudit pour avoir eu une pensée aussi monstrueuse. »
Il s'enfonça les ongles dans les joues, et ses joues pleurèrent des larmes de sang.
« Sa Cécilie, sa pure Cécilie, aimer un imbécile pareil, un idiot à monocle !»
L'astigmatisme, attesté par le monocle, équivalait toujours, aux yeux de chéri Bibi, à un brevet d'idiotie.
« Mais c'était lui, chéri Bibi, l'idiot !»
Et la preuve en était qu'au beau milieu de la danse, la jolie marquise se dégageait doucement mais fermement de son danseur et lui demandait d'un ton très net, chéri Bibi eut la joie surhumaine de l'entendre, de la reconduire à sa place. Ça, par exemple, c'était bien fait. Chéri Bibi se mit à rire comme un insensé. L'autre faisait une tête, mais une tête. Ah bien, il était remis à sa place. Et comment ?
Chéri Bibi trépignait de joie.
Il n'entendait pas autour de lui des personnes qui le considéraient avec effarement et qui disaient
« Ce pauvre monsieur est fou !»
La ficelle dut le tirer par la manche pour le faire revenir au sentiment des réalités et des convenances. Ah, que chéri Bibi était heureux maintenant ! Certes, il n'eut jamais douté de sa Cécilie, mais enfin, si jamais on racontait des choses, les hommes, et les femmes aussi, sont si méchants. Il savait, lui, que sa Cécilie n'aimait pas le bon mari. Il venait d'en avoir la preuve. Bien mieux, cette scène au bal prouvait que jamais Cécilie n'avait permis que bon mari lui adressât le moindre propos volage. Le comble fut mis à son enthousiasme quand il vit la jeune marquise de Touchet se pencher à l'oreille de la douairière et la décider à quitter la place. Elles se levèrent, et chéri Bibi, qui se retenait d'applaudir, se disait en aparté « Tu as bien raison, ma chérie, je suis tout à fait de ton avis. Va, ma colombe, rentre dans ton doux nid. Cet endroit où l'on rencontre des baronnes Proskoff et des Pontmarie n'est point fait pour toi. » Justement, la baronne Proskoff et son mari se trouvaient près de la porte de sortie au moment où les deux marquises allaient la franchir, après avoir pris congé du sous-préfet et de quelques-uns de ses messieurs, sous prétexte d'une grande fatigue de la douairière. La baronne avait demandé tout haut au baron de la conduire un instant dans les salons de jeu, et il y eut rencontre inévitable. La belle diépoise, avec une hauteur sans pareille, passa devant Cécilie en lui coupant carrément le chemin, et même en la bousculant un peu. Toute l'assemblée s'aperçut de cela, et il y eut un léger murmure. La ficelle eut toutes les peines du monde à retenir chéri Bibi, qui voulait sauter par la fenêtre et aller corriger dardard le baron. Une dame, assise sur une banquette, non loin de chéri Bibi, dit tout haut « C'est honteux, mais la pauvre petite marquise fait bien de s'en aller. Ce n'est pas la première fois que cette grue lui fait des avanies. » Chéri Bibi, qui traînait derrière lui la ficelle, suspendue à son veston, courut au couloir de sortie et vit passer les deux marquises qui se dirigeaient vers la grille. Il les suivit. À la grille, par une fatalité cruelle, ces dames se heurtèrent encore à cette péronnelle de baronne dont le mari appelait une voiture. Sans doute, du moment que Cécilie quittait la place et qu'elle n'avait plus à lui imposer d'affront, trouvait-elle la soirée terminée et avait-elle résolu d'aller s'amuser ailleurs? Les deux marquises attendaient leur auto. Le malheur voulut encore que la pluie commençât à tomber, drue et fine, ce qui amena une légère bousculade et de la précipitation dans le mouvement des équipages. L'auto des marquises se présenta dans le même moment que la calèche à deux chevaux demandée par le baron.
Aussitôt, la belle Diépoise éleva la voix pour commander au cocher de se hâter et de venir se ranger près d'elle, au plus court. Ce que fit le cocher, gênant l'auto des marquises, qui dut attendre et s'arrêter net au risque d'un accident. La baronne en profita pour, passant sous le nez de Cécilie, poser déjà le pied sur le marchepied. Mais elle dut se rejeter vite en arrière et elle poussa un cri d'effroi. Sous une poussée irrésistible, les deux chevaux, qu'un inconnu avait saisis aux morts, reculaient en hennissant et en se débattant sous deux points de fer, et tout l'équipage glissa en arrière avec une brutalité et une rapidité inattendues. Mais la place était dégagée et le chauffeur de la marquise put se ranger le long du trottoir. Les deux femmes montèrent vivement pendant que l'inconnu criait d'une voix retentissante « Les honnêtes femmes d'abord !» L'auto démarra en beauté, cependant que, penchée à la portière, Cécilie essayait vainement de revoir le personnage qui lui valait cette extraordinaire revanche. Mais il avait déjà disparu. Et le baron Proskov, qui brandissait sa carte et qui ne savait à qui la donner, fut l'objet d'une risée générale. Il est temps de rentrer à l'hôtel, fit la ficelle à chérie Bibi après ce beau coup. Mais permettez-moi, mon cher marquis, de vous faire remarquer, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, que voilà revenue cette humeur batailleuse qui nous a valu déjà tant de déboires. Et puis, laissez se débrouiller entre eux, chauffeurs et cochers. Prendre des chevaux aux morts, faire reculer en équipage, c'est la besogne de palefrenier, monsieur le marquis.